Tendances actuelles du catholicisme français, regard historique. Voici la première partie de l'intervention de Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire des religions. Intervention enregistrée le 24 septembre 2022 à la Maison diocésaine de Bayonne, lors de la journée de rentrée de l'antenne de théologie des Pays de l'Adour, l'ATPA. Voici la première partie de l'intervention de Guillaume Cuchet.
Merci de votre invitation, de votre accueil. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient là hier soir. Alors, je vais un peu me répéter de temps en temps. Ben, enfin, vous ferez comme si c'était la première fois que ça sortait. On a tous un peu nos cassettes. Donc, alors, l'idée, quand même, c'était d'articuler le propos d'hier, que certains d'entre vous ont écouté avec celui d'aujourd'hui. Hier, c'était plus une sorte d'analyse de tendances contemporaines telles que l'historien peut les voir. C'est au fond ce qu'on a sous les yeux. Pas tout à fait dans la rue, mais presque, analyser du point de vue de l'historien en comparant, au fond, la situation présente avec ce qu'elle était il y a 50, 60 ans. Et on avait insisté sur le fait que tout dépend un peu du point de départ chronologique de la comparaison, si je compare sur 200 ans, sur 50 ans, 60 ans. J'ai des tableaux qui sont très, très variables. Voilà. Donc c'était, au fond, une sorte de sociologie historique, de sociologie d'historien. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est peut-être plus poser la question suivante, cette situation que nous avons sous les yeux et qui est le résultat d'évolutions multiples et de longue durée parfois, au fond, comment, d'où elle vient, en quelque sorte. D'où elle vient, quelles sont ses origines. Question qu'on nous pose tout le temps, mais ça date de quand, ça vient d'où, pourquoi on en est là. Ces questions d'origine, elles sont toujours très difficiles à traiter pour les historiens. Non seulement de dater les phénomènes, mais de les expliquer. Mais enfin, on ne peut pas tellement en faire l'économie. Ça m'arrive de temps en temps de mettre en série. Alors, il y a une sorte de tradition littéraire en France, des essais sur l'état du catholicisme contemporain. Ça remonte à loin. Depuis, je dirais, les lendemains de la Révolution française. On pourrait presque faire une série de ces livres qui ont eu un certain succès, en ce sens qu'ils ont tâché à la fois de photographier la situation au moment où ils ont été publiés et d'en fournir des explications. On pourrait établir tout un corpus, ça pourrait même faire l'objet d'un cours, et on irait de l'essai sur l'indifférence de Félicité de Lamennais en 1817, voilà, première photographie, à le christianisme va-t-il mourir, Jean Delumeau, 1977, en passant par la France pays de mission, point d'interrogation, 1943. Il y a une sorte de genre littéraire, au fond, qui fait que périodiquement, un essai sort, et à la limite, je pourrais modestement mettre mon affaire, comment notre monde a cessé d'être chrétien dans la série, ça revient régulièrement. Il y a besoin de faire le point. Et on pourrait se dire, de la mise en série, bon, ben, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, depuis Félicité de Lamennais, on nous annonce qu'on est subclaquant, on est toujours vivant, donc l'Église enterrera tous ses cassandres, et il n'y a pas tellement lieu de s'alarmer excessivement. C'est effectivement une première interprétation possible. L'autre, c'est de dire qu'il y a effectivement un processus de déclin de longue durée, qui n'est pas linéaire, qui est très complexe dans le détail, et que chacun l'attrape dans sa séquence. Et tâche de le décrire. Je pense que c'est plutôt ça, en réalité, ce qui se passe. Et il faut donc essayer de reconstituer le processus dans la longue durée, mais c'est très compliqué, en partie pour des raisons documentaires. C'est que plus on remonte dans le temps, moins on a les moyens documentaires d'une description fine de la situation en question. En tout cas, ce phénomène de décrochage religieux que nous avons sous les yeux, que nous observons en France, il n'est pas spécifiquement français. Il n'est pas spécifiquement français. Mes collègues européens ou d'Amérique du Nord le décrivent aussi dans des termes comparables, avec des chronologies un petit peu analogues. J'ai, avec une collègue de l'Université de Rouen, on a fait traduire récemment un très grand livre, je vous conseille, d'un historien britannique qui s'appelle Hugh MacLeod. Ce livre en anglais s'appelle « La crise religieuse des années 60 », mais il a été traduit sous le titre « Le déclin de la chrétienté ». Et c'est un livre très intéressant qui tâche de penser ce décrochage religieux occidental des deux côtés de l'Atlantique, en Europe de l'Ouest en gros, et en Amérique du Nord. Et c'est ce Hugh MacLeod, c'est un des très rares universitaires contemporains qui a, je dirais, une information symétrique et presque de qualité équivalente des deux côtés de l'Atlantique, ce qui est très rare. Généralement, on est spécialiste d'un pays, et puis on fait des comparaisons un peu à la louche, qui sont un peu bancales. Là, on a quelqu'un qui a vraiment une information très complète, et qui montre bien que cette crise religieuse des années 60, dont on va reparler, était une crise générale, qui concerne aussi bien l'Angleterre anglicane, majoritairement anglicane des années 60, que les États-Unis eux-mêmes, même si c'est une des grandes questions parmi les historiens que de savoir si ce qui se passe aux États-Unis, c'est la même chose que ce qui se passe chez nous, si on est partie prenante de la même histoire avec des variantes dans les rythmes, les flux, ou si on est engagé dans des histoires religieuses très différentes, qui n'ont rien à voir. Et peu importe, il y a un certain nombre d'aspects transversaux qui sont manifestes dans cette crise religieuse des années 60-70 et que les historiens analysent. Cela dit, donc, le cas français présente quand même un certain nombre de spécificités, de particularités. Ces particularités, j'en énoncerai trois qui sont bien connues, mais qui sont des évidences mais à garder en tête quand on pense le cas français. La première, c'est que pendant très longtemps, la France a été la première puissance catholique du monde. Sur le plan démographique. Encore au XIXe siècle, la France est le premier pays catholique du monde. Aujourd'hui, c'est le Brésil. Dans le monde d'avant 1914, pratiquement les trois quarts des missionnaires catholiques dans le monde sont français. Les trois quarts des missionnaires catholiques dans le monde sont français. En partie aussi parce que la République expulsant assez régulièrement les religieux, ils sont obligés de se disperser. Donc ça, c'est la main gauche du bon Dieu. Mais le fait est qu'il y a une sorte de... Le cas français, si vous voulez, intéresse tout particulièrement l'Église catholique dans sa généralité, non seulement parce que la France, selon la formule du XIXe siècle, et qui renvoie à des réalités antérieures, est la fille aînée de l'Église, mais aussi parce que, tout simplement sur le plan démographique, elle occupe une place considérable dans l'Église de son temps. Encore aujourd'hui, les nonces parlent généralement français, par exemple. C'est eux qui ont gardé cet usage diplomatique. D'ailleurs, tous les diplomates d'Europe avant 14 parlaient français, mais les nonces continuent de parler français. Bon, là, il y a des sortes d'héritages qui persistent. À certains égards, on pourrait dire que le Concile Vatican II lui-même a été pour une part d'influence française. Si on regarde qui sont les théologiens les plus éminents, qui l'ont d'une certaine façon inspiré, il y a beaucoup de Français, d'Allemands, de Belges, l'Esprit Saint, trois ou quatre nationalités, qu'on peut repérer assez bien. Bon, donc, la France n'est pas, je dirais, un cas secondaire, c'est un cas très axial dans le destin du catholicisme. La deuxième spécificité, c'est que dans la société française, jusqu'à une date relativement récente, le catholicisme était, vous le savez, non pas seulement la confession majoritaire, mais la confession ultra-majoritaire. Il y a un lien très profond de l'identité française avec le catholicisme. Vous savez qu'en France, on ne fait plus de statistiques religieuses publiques, pour des raisons diverses, mais au XIXe siècle, on en faisait. C'est sous la Troisième République, laïque et parfois anticléricale, qu'on a cessé d'en faire. Mais le dernier recensement du XIXe siècle où on en a fait, c'est en 1872. Troisième République est née en 1870, mais elle n'est pas très républicaine jusqu'à la fin des années 70. Donc en 1872, c'est la dernière fois qu'en comptant les Français, dans un recensement, on leur a demandé leur religion. Dernière photographie officielle, en quelque sorte. Et c'est intéressant, rétrospectivement, de regarder ce recensement. 97,5% des Français ont répondu qu'ils étaient catholiques romains en 1872. 97,5% d'entre eux, le pays était plus catholique que jamais, puisque, comme vous savez, Bismarck venait de nous délester de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, avec le contingent de protestants et d'israélites qui allaient avec. Donc, en fait, le pays était très majoritairement, ultra-majoritairement catholique, ce qui ne va pas empêcher les hommes en particulier, puisque les femmes ne votent que depuis 1945, de voter pour des majorités laïques et souvent anticléricales, invariablement de 1876 à 1914. Mais les mêmes qui vont voter républicains pour des candidats anticléricaux ont déclaré au recenseur en 1872 qu'ils étaient catholiques romains, à 97,5% d'entre eux. Et bien cette situation de catholicisme ultra-majoritaire, elle était encore en place au début des années 60, très largement. Le chanoine Boulard, qui était le sociologue de l'épiscopat, estimait que 93 ou 94% de la génération, c'est-à-dire des 800 000 petits Français qui naissaient chaque année au début des années 60, était baptisé dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance. Autrement dit, ce taux de baptême à 93, 94 était encore en place au début des années 60. Ça, c'est la deuxième spécificité française, en quelque sorte, comparable à ce qu'on rencontre dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, de culture catholique majoritaire. Et puis la troisième spécificité, c'est, on y reviendra, l'intensité de la crise post-conciliaire du catholicisme français. Le concile a été suivi chez nous d'une crise qu'on a pris l'habitude avec mes collègues d'appeler la crise catholique des années, en gros, 1965-1975, pour ne retenir que sa décennie d'intensité maximale. Et elle a été particulièrement violente chez nous, particulièrement destructrice aussi, à bien des égards, et j'allais dire, on en sent encore à bien des égards les effets, directement ou indirectement. Ça, c'est les trois spécificités, si vous voulez, du cas français. Alors, essayez de comprendre ce décrochage spectaculaire que nous avons sous les yeux, en le remettant dans la longue durée, j'y reviendrai. C'est une opération compliquée. C'est horriblement compliqué. Moi, ça fait des années que je tourne autour du pot. D'ailleurs, parce que c'est très compliqué, que l'idéologie, d'une manière générale, quelle qu'elle soit, conservatrice ou progressiste, prolifère dans ce domaine. Parce que l'avantage de l'idéologie, c'est que ça vous simplifie le tableau. Elle est généralement monocausale, l'idéologie. C'est la faute à ceci, cela. Et puis, d'une certaine façon, vous fournissez une explication à qui en demande. Donc, il y a d'abord, je dirais, ces idéologies ambiantes, mais il y a aussi, de façon plus innocente, toutes les explications qui sont nées de la crise elle-même et qui sont plus ou moins devenues des explications savantes, les explications d'époque, en quelque sorte, qui ont émané des uns et des autres, des témoins et des acteurs de cette crise, qui sont évidemment... qui ont un savoir irremplaçable sur la crise elle-même. Donc, on a tout un ensemble d'explications, plus ou moins unilatérales, plus ou moins monocausales, qui tâchent de rendre compte de cette rupture dont chacun sent et ressent les effets, souvent douloureusement, dans l'Église, et tâchent de se les expliquer. Alors, je ne prétends pas fournir une explication totale clé en main, mais je dirais, avant d'avancer un certain nombre d'éléments, ça peut valoir le coup d'essayer d'expliciter le cahier des charges de l'historien face à un problème de ce genre. Oui. Le cahier des charges, à mon avis, il y a peut-être 3 éléments qu'il faut garder en tête, 3 paramètres à garder en tête. Le premier, c'est qu'il faut... La situation présente est le résultat de facteurs de longue durée, de facteurs de moyen terme, et de facteurs de court terme. Autrement dit, il faut arriver, dans l'explication qu'on peut donner de la crise en question, à articuler les 3 temporalités. Ce qui nous arrive de très très loin, ce qui est de l'ordre du moyen terme, de 30, 40, 50 ans, et puis les événements qui se produisent. Et c'est très difficile de savoir ce qui compte le plus, ce qui est le plus agissant, ce qui est le plus moteur dans les évolutions en question. Mais il faut arriver à penser les 3. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est d'arriver à penser les facteurs religieux de la mutation, parce qu'il y a des facteurs religieux d'une mutation religieuse, et les facteurs socioculturels. Et on voit très bien comment les analyses se répartissent, tantôt certains majorent les facteurs religieux en disant « c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela, c'est la faute au concile, c'est la faute à pas assez de concile, c'est la faute à trop de concile ». Ouais, y a des explications religieuses, et puis des explications de l'ordre socioculturel, qui permettent de comprendre d'ailleurs pourquoi le décrochage en question s'est produit aussi bien chez les anglicans que chez les catholiques, mais à peu près au même moment. Donc, penser l'articulation des facteurs religieux et des facteurs socioculturels, c'est une deuxième difficulté, étant bien entendu que nous autres historiens, on raisonne un petit peu à la louche, un peu grossièrement, mais dès lors qu'on regarde un facteur social de près, il peut arriver qu'on y détecte du religieux caché. Et dès lors qu'on regarde un facteur religieux de près, il y a beaucoup de social métamorphosé dans le religieux. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, la distinction tient à distance, mais dès qu'elle est vue de très très près, on ne sait plus très bien à quoi on a affaire. Voilà. Donc ça, c'est un peu inévitable en histoire. On n'est pas très fin, nous. On raisonne un peu à la louche. en mettant les choses dans des catégories, tout en étant bien conscient que, vu de près, ça peut s'analyser un peu différemment. Et puis, je dirais, troisième élément du cahier des charges, et ça, j'y insiste un peu parce que ça a été un des points sur lesquels j'ai insisté dans ce livre de 2018, où je suis repassé par des archives bien connues, qui sont les enquêtes sociologiques que l'Église catholique a multipliées dans les 20 ou 30 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, sous l'égide notamment de ce chanoine Boulard que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a des centaines de mètres linéaires d'archives, de graphiques, de produits semi-finis extraordinaires, une richesse extraordinaire. Et mon troisième élément, c'est de faire attention à ne pas écrire l'histoire du noyau dur de l'Église catholique, c'est-à-dire du clergé, des militants, en oubliant l'histoire du deuxième et du troisième cercle, c'est-à-dire de l'immense majorité des Français, qui n'ont qu'un rapport un peu distancié ou intermittent avec l'Église, mais un catholicisme sincère, un catholicisme qui est le leur. Et nous autres historiens, par la force des choses, parce qu'on va aux archives et parce qu'on est peut-être aussi des intellectuels, on a tendance à majorer l'histoire du centre en oubliant qu'à la périphérie, on a aussi son compte à soi, on fonctionne dans sa religion à sa manière. Sans demander aux théologiens ou même aux clergés comment on doit procéder. Et donc là, je crois qu'il y a des effets de déformation très importants, c'est qu'on a souvent, en écrivant l'histoire de cette période, écrit l'histoire de la crise dans le noyau dur. Alors que tout un chacun savait très bien que dans nos familles, des tas de gens, certes, étaient au courant qu'il y avait eu un concile, avaient bien constaté des modifications, notamment liturgiques, parce que ça, la liturgie, ça concerne tout le monde. Donc ça, c'est la chose qu'on ne peut pas rater. Mais le reste, la question de savoir ce que le concile avait dit de la liberté de conscience, peu importe, ça s'est passé complètement au-dessous de la tête du grand nombre. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, de savoir de qui on parle exactement, étant bien conscient que notre documentation, elle, vient du centre, pour l'essentiel. Elle émane des intellectuels, des acteurs, des militants, et que les consommateurs intermittents du catholicisme, qui peuvent être très sincères, ont moins voix au chapitre dans cette affaire, et que c'est pourtant eux, à bien des égards, qui nous intéressent. Ça, c'est le cahier des charges. Alors, je vous ai dit, la situation que nous avons sous les yeux, alors on peut la résumer en deux chiffres que je donne rapidement. En 1965, on considère, et on fait plus que considérer, parce que là on a des enquêtes extrêmement précises, que le taux de pratique dominicale des adultes, c'est-à-dire les adultes qui allaient à la messe tous les dimanches, était de 25%. Un adulte sur quatre dans ce pays allait à la messe tous les dimanches. Taux de 25% qui, comme moyenne, ne signifie pas grand-chose, parce que dans un diocèse de chrétienté, dans le haut des montagnes du Jura ou dans le nord de la Vendée, le taux de pratique était à 95. Tout le monde était là, sauf ceux qui avaient une excuse canonique. 200 km plus loin, pour le bourg de la Vendée, dans le Limousin, le taux pouvait être à zéro. Il ne pouvait y avoir personne. Les servants de messe et deux femmes dans l'assistance dominicale. Autrement dit, il y avait des variations de taux de 0 à 100 dans les campagnes. Les variations sont toujours moindres dans les villes, ça monte moins haut, ça descend moins bas. Donc votre taux à 25 ne signifie pas grand-chose. Certes, il y avait des diocèses à 25, mais il y en avait à 95, il y en avait à 5. Voilà. Donc ces contrastes qui sont très énigmatiques et qui ont beaucoup fait réfléchir les historiens du catholicisme français, de quand ils datent ces contrastes, d'où ils viennent, comment les expliquer, il y a des bibliothèques entières là-dessus, mais il faut les avoir en tête. Taux de pratique des adultes, donc, à 25% en 1965. Aujourd'hui, la dernière enquête quantitative sérieuse qui a été faite avant le Covid et la SIAZ, dont vous pouvez encore baisser l'affaire, était inférieure à 2%, 1,8%. Hein, la Croix avait publié cette enquête quantitative avant Covid et SIAZ, 1,8%. Donc, comment on passe de 25% à moins à 1,5% en 60 ans? Là, il y a un décrochage très spectaculaire. Et le deuxième indice que je cite souvent, c'est le taux de baptême de la génération. Au milieu des années 60, il y avait 800 000 naissances par an à peu près. C'était la fin du baby-boom. Il y a ce rectangle du baby-boom qu'on voit encore très bien, d'ailleurs, dans la pyramide des âges, parce que la particularité de cette génération, elle meurt tardivement. Donc elle est pratiquement encore parmi nous, à l'état complet. Ces 800 000 enfants... ils étaient baptisés à 93 ou 94% dans l'église dans les 3 mois. en 1965, et aujourd'hui, le taux de baptême est peut-être à 25 dans les 7 ans. Voilà. Donc, pour un indice, donc, le taux de baptême qui est extrêmement résistant avait traversé la Révolution française, l'industrialisation, les deux guerres mondiales, sans bouger. Donc ça, c'était le rite de passage, comme disent les anthropologues, consacré par l'Église, et qui était des nœuds extrêmement puissants du catholicisme ancien. Donc décrochage qui est très spectaculaire, mais décrochage qui est le produit d'une histoire de longue durée. Voilà. Ça vient de loin, ça a démarré, si on devait fournir un point de départ, probablement dans les années 1760, avant même la Révolution française. D'ailleurs, on ne comprendrait rien à la Révolution française si derrière la façade du catholicisme officiel, un certain nombre de choses n'avaient déjà pas commencé à se défaire, voilà, qui sont venues au grand jour à ce moment-là. Donc ça démarre avant la Révolution française, et il y a tout un processus schématisé qui permet de visualiser le processus dans sa complexité. On pourrait spontanément se dire, au fond, qu'est-ce qu'il faut essayer d'expliquer, comment on passe d'un taux de pratique unanime, mettons à 95% avant... Il n'y a rien. C'est mon feutre qui n'est pas terrible. Donc comment on passe... Voilà. Comment on passe en 89 d'un taux de pratique unanime, avec tout le problème de savoir qu'est-ce qui signifie le taux en question, hein. Là, moi, je raisonne quantitativement au 1,5% actuel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'histoire d'un long déclin linéaire, homogène dans la société, dans l'espace, et irréversible, avec des facteurs de longue durée qui poussent dans la pente, qui peuvent avoir changé chemin faisant? D'ailleurs, les facteurs de la fin du XVIIIe siècle ne sont pas forcément les facteurs du milieu du XIXe ou les nôtres aujourd'hui. Ça, c'est une représentation mathématique, une sorte d'artefact qui ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et d'ailleurs, dans nos sources, dans notre documentation, on ne trouve pas du tout l'écho de ça. Donc, je vous passe les détails, parce que là aussi, il y a des bibliothèques entières. Si on devait reconstituer le processus pour autant qu'on puisse le faire, étant bien entendu que ce qui est très compliqué aussi en France, c'est que précisément il y a une diversité régionale très importante, de sorte que c'est souvent par hypothèse qu'on fait comme si ça s'était passé de la même manière en Vendée dans le Limousin, alors qu'en réalité il est possible et même parfois probable qu'on ait eu des évolutions contraires au même moment de chacun de ces diocèses. Donc les historiens, j'allais dire, ils bouchent les trous comme ils peuvent. Quand ils n'ont pas de documentation ou qu'on n'a pas fait les monographies nécessaires dans l'espace en question, ils font comme si on avait affaire à un mouvement homogène, ce qui n'est pas du tout évident. Et souvent, quand par exception, on peut zoomer sur un cas local, on s'aperçoit que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait imaginé du processus global. Mais en gros, je vous passe les hésitations et les points d'interrogation, le point d'interrogation qui pèse sur la reconstitution. Je dirais, en gros, il y a eu deux grandes ruptures. Une première rupture qui correspond à la Révolution française, donc rupture d'origine politique, d'une certaine façon, dont on a pu faire le bilan, ou commencer de faire le bilan, au moment du concordat napoléonien, en 1801-1802. Voilà, la Révolution a duré 10 ans. 10 ans, c'est important. 10 ans, c'est une période, c'est pas un événement. On a le temps de prendre des habitudes en 10 ans. Une première grande rupture avec une sorte de bilan établi sous le concordat. Je vous passe les détails, mais tout va dépendre en partie pour la suite de la vitesse de reconstitution des effectifs ecclésiastiques et du dynamisme de l'Église locale dans chacun des diocèses. C'est-à-dire que là où l'Église a pu se reconstituer en 10 ans, elle a pu effacer en partie l'effet de la rupture. Là où il en a fallu 40, les effets de la rupture ont eu le temps de s'indurer, en quelque sorte, et de créer un nouveau monde. Ce qui explique en partie les énormes contrastes du catholicisme français du XIXe siècle. Il y a des endroits où on a pu effacer les conséquences et d'autres non. Mais peu importe, 1801, première rupture. Deuxième rupture, à mon avis, c'est celle dont nous sommes les enfants, qui se produit dans les années 60 et qui déroule ses conséquences depuis, mais qui a la particularité précisément d'être une rupture que l'Église n'arrive pas à bloquer. La rupture révolutionnaire, l'Église du XIXe se reconstruit et elle arrive en partie à la bloquer. Voilà. La nôtre, elle dure depuis 60 ans et elle prolonge ses effets de rupture. C'est ça qui la rend très spécifique par rapport à la précédente. Et puis entre les deux, du coup, ce que vous avez expliqué, ce n'est pas une dégringolade de 95 à 1,5 sur deux siècles, c'est plutôt une dégringolade de 70 à 25. Mais pour autant, c'est toujours pas sous la forme d'un processus linéaire que ça s'est passé. En réalité, il y a eu des phases de reprise, puis de déclin, puis de reprise, puis de déclin. Autrement dit, alors phase de reprise, par exemple, 1830-1870. Là, l'Église catholique, avec l'apparition de la Vierge en 58 au milieu à Lourdes, elle arrive dans la montée. Elle arrive vraiment dans la montée, dans les montagnes et dans la montée, parce que si on avait posé la question à un Français né au lendemain de la Révolution, né sous le Concordat, la période la pire pour l'Église, c'est le début du XIXe siècle. C'est vraiment le moment où elle a, j'allais dire, les conséquences de la Révolution se font pleinement sentir et elle n'a pas encore enclenché la dynamique de la reconstruction. C'est la période la plus difficile. Mais si on avait posé la question à un jeune Français né en 1801 et mort en 1870 de savoir comment s'était passé le XIXe siècle, il aurait eu le sentiment que ça avait monté. Et on a des tas de témoignages de ce genre. Donc, ah bah si, belle reconstruction, belle reprise. Bon. Même chose, si on avait posé la question à un Français né au moment des apparitions de Lourdes sous Napoléon III, au plus fort de la reprise, et qu'on lui avait posé la question en 1905, au moment de la séparation de l'État, de savoir comment ça se passait, il nous aurait dit « ça s'est bien dégradé bon. ». Les uns et les autres avaient raison. Ils avaient raison à l'échelle de leur existence, c'est-à-dire des phases, mais pas de la tendance. On ne vit que les phases, on ne vit pas la tendance. Personne ne vit les traînes sur 200 ans. On ne vit que les phases sur 50 ans, sur 60 ans, en comparant très spontanément ce qu'on a connu dans son enfance, ce qu'on a connu dans son âge adulte, ou dans sa vieillesse. Donc, quand vous avez un processus de ce genre, vous arrivez à comprendre, j'allais dire, l'écart entre notre documentation statistique et les témoignages des contemporains, qui parfois ont l'air de ne pas aller ensemble, de ne pas concorder. Alors, ça peut s'expliquer de mille autres manières, mais il y a, à mon avis, un effet de ce genre, c'est que il y a à la fois la vie des phases, qui est la vie réelle, et la vie du trend, qui, elle, est une vie mathématique, en quelque sorte, qui est un artefact, mais les trends ne sont pas sans effet. C'est-à-dire qu'il y a des effets de seuil. Il y a des moments, quand vous passez sous une certaine barre, votre trend, tout à coup, produit des effets culturels. Et à mon avis, nous, la vie est dure, parce qu'on a la phase négative et le trend qui produit ces effets culturels. Donc on est dans le dur. On est dans le dur parce qu'on cumule les impressions. On cumule les impressions du trend et les impressions de la phase en ajoutant les événements eux-mêmes, la SIAZ, le Covid, les machins. Alors ça, c'est sûr que ça vous fait un tableau clinique pas très encourageant. Bon. Alors, ça, c'est la reconstitution. Je répète, elle est très hypothétique, cette reconstitution, donc, en partie parce que, au fond, avant 1840, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On a très peu de données statistiques, il y a des visites pastorales d'évêques, bon, on a quelques photographies ponctuelles, mais c'est très difficile de reconstituer le processus avant, donc on le fait un petit peu en comblant les trous de notre documentation comme on peut, et je le répète en faisant comme si ça s'était passé de la même manière au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et dès qu'on a l'occasion d'aller voir de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas sûr du tout. Cette diversité régionale, elle est très importante. Ça, c'est le processus de longue durée. Alors, si on veut comprendre le décrochage, ben, c'est ce que j'ai essayé un peu de faire. Je me suis dit, au fond, il faut essayer de voir quelle était la situation avant le décrochage, juste avant. Éventuellement, pour essayer de voir, d'ailleurs, par où ça a décroché. C'est-à-dire quelles étaient les faiblesses, les zones de faiblesse du système à l'état stable, pour comprendre par où la rupture a pu se produire. Ça suppose, donc, avant de penser la rupture, de penser le monde stable d'avant la rupture. Et ça, il se trouve qu'en France, on a les moyens de le faire, parce que, précisément, l'Église de France a eu une espèce de passion sociologique et historique au XXe siècle, sous l'égide d'un certain nombre de grandes figures, de sociologues et d'historiens, on a rassemblé une documentation absolument formidable. Aucune Église au monde ne s'est regardée d'aussi près que l'Église de France. Le but était pastoral, le succès n'a pas été au rendez-vous de ce point de vue-là, mais c'est un vrai succès scientifique. Ça, c'est sûr. C'était pas le but de l'opération, mais les historiens, surtout universitaires, à la fin de sa vie, ce fameux chanoine Boulard, personnage dont je parle souvent, qui était le sociologue de l'épiscopat, un monsieur extrêmement savant, d'une immense humilité, et le chanoine Bart, il est mort en 1977, donc il a eu le temps de voir le décrochage. Puis il est mort très, très vert, hein, si je puis dire, hein, très en forme, suivant bien ce qui se passait. Et à la fin de sa vie, plus personne l'écoutait. Et d'ailleurs, il a du coup été prêché la bonne parole en Amérique du Sud. Parce que là, il avait encore une certaine aura. Bon, mais en France, alors qu'il avait été très central, à partir du milieu des années 60, les enquêtes quantitatives qu'il incarnait, en quelque sorte, n'intéressaient plus. Et elles intéressaient d'autant moins qu'il n'avait plus que des mauvaises nouvelles à annoncer. Donc, on veut bien financer les grandes enquêtes. Et il y a eu des enquêtes diocésaines dans les années 50, gigantesques, hein. C'était des efforts qui mobilisaient tout un diocèse sur un an. On veut bien se lancer dans les grandes enquêtes si les résultats qui remontent ne sont pas déprimants. Si c'est pour se déprimer à la sortie, on arrête assez vite. Donc, à la fin de sa vie, dans les 15 dernières années de sa vie, c'était terminé. On ne l'écoutait plus guère, mais il a eu le temps d'assister à ça. Et du coup, on a une documentation formidable qui permet de savoir très précisément ce qu'était, en gros, le catholicisme des années 50, qui est le catholicisme qu'on connaît le mieux. Le catholicisme des années 1950. Or, il était, ce catholicisme, très contrasté. Ces contrastes, je les énonce rapidement, mais il faut toujours les avoir à l'esprit parce qu'on a tendance à raisonner un peu sur le catholicisme comme si ça formait un tout homogène, ce qui n'était pas du tout le cas. Alors, les contrastes, ils sont de plusieurs types. Il y a d'abord un premier type de contraste, c'est, je dirais, des contrastes dans le niveau de motivation des fidèles. Ce que je vous ai dit, 93% de la génération est baptisée dans les 3 mois. Mais ça ne fait pas 93% de mystiques, vous vous en doutez. Donc, c'est un peuple, c'est une culture et un peuple. Voilà. Et à l'intérieur, il y a tout. Il y a tout, il y a la diversité d'un monde. Bon. Du coup, les sociologues, ceux qui ont inventé la sociologie du catholicisme, a commencé par un laïc qui a été le maître du chanoine Boulard, qui s'appelle Gabriel Le Braz, qui était un breton. Qui était une grande puissance universitaire, spécialiste de droit canon, d'ailleurs, droit canon, et Gabriel Le Braz, qui a inventé la sociologie du catholicisme, notamment dans un grand article célèbre, au moins pour le Landerneau des spécialistes de l'histoire religieuse, en 1931, publié dans une revue qui existe toujours, qui est une vieille dame vénérable, la RHEF, la Revue d'Histoire de l'Église de France, en 1931, Gabriel Le Braz publie un article fondateur, véritablement, en disant... En France, on n'arrête pas de s'écharper entre laïcs et catholiques, au sein même du camp catholique, pour savoir dans quel état est le catholicisme français. Eh bien, on fait de la statistique, on compte les têtes de bétail, on compte les tonnes de charbon produites, on n'a qu'à compter les catholiques, et comme ça, on saura de quoi on parle. Bon. Donc, il lance cette idée de faire, de faire une sorte de photographie très précise et très scientifique de l'état du catholicisme. C'est vraiment le début de la sociologie du catholicisme, et c'est le chanoine Boulard, pour une large part, qui va mener à bien ce projet. Or, Gabriel Le Braz, c'est là que je veux en venir, dans son article de 1931, disait, quand on raisonne sur les catholiques, il faut distinguer des cercles de motivation variables. Il y a un noyau dur, disait-il, ceux qu'il appelait les dévots, ce que nous appellerions plutôt les fervents, de gens qui non seulement font ce qu'on leur demande, vont à la messe le dimanche, communient au moins une fois par an à Pâques, et se confessent au moins une fois par an pour pouvoir communier, c'était le tarif minimum. Il y a des dévots, mais les dévots, ils font ça, puis ils en font plus. Ils vont à la messe souvent, ils s'engagent dans l'église, dans les œuvres. Voilà, c'est le noyau dur. Quand vous avez un noyau dur à 2% ou un noyau dur à 15%, vous avez une force de frappe sociale qui n'a rien à voir. Hein, donc, de la taille du noyau dur dépend la vitalité globale du catholicisme. Vous avez un deuxième cercle, disait Le Braz, ceux qu'il appelait les pratiquants. Ça vient de lui. Hein. Les pratiquants, c'est ceux qui font ce qu'on leur demande. Voilà. Pas plus, pas moins. Ils sont en règle avec les prescriptions de l'Église. Et ces pratiquants, je vous disais tout à l'heure, en 1965, ils étaient 25% des adultes. Un adulte sur quatre. On comptait les adultes parce qu'on considérait que les enfants, c'était la clientèle captive qui venait dans le sillage de leurs parents et que ce n'était pas sérieux. Donc, mais il y avait beaucoup plus de jeunes que d'adultes et d'enfants que de jeunes. Attention, hein, parce que les assistances dominicales, c'était une pyramide des âges. Bon. Alors que nous, la pyramide, elle est comme ça. Très important, majeur. En réalité, on ne les comptait pas au-dessous de 21, mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Et plus la paroisse était déchristianisée, ou plus le diocèse était déchristianisé, plus la proportion des enfants était importante. C'est ça, nous on pourrait dire, ah, quand il y a plein d'enfants, c'est un signe de dynamisme. C'était le contraire à l'époque. Quand il y avait plein d'enfants, ça veut dire que les parents ne venaient pas et envoyaient leur moutard pour la communion solennelle. et que c'était au contraire, la proportion des enfants était un signe de déchristianisation. C'est vous dire si on n'était pas du tout dans le même univers avec les critères d'évaluation qui n'ont absolument rien à voir avec le nôtre. Alors, 25% de pratiquants, et puis il y avait un troisième cercle, ceux que Gabriel Lebras en 1931 appelait les conformistes saisonniers, c'est pas très aimable. Nous, on dit plutôt, je dis plutôt les occasionnels. C'est plus neutre. J'ai moins l'impression de les insulter en les nommant. Alors, les conformistes saisonniers, ils étaient de deux types. Alors, pourquoi ils étaient conformistes saisonniers? Ils étaient saisonniers parce qu'ils venaient à la messe. Il y a des conformistes saisonniers de type 1 et de type 2. Le type 1, c'est ceux qui viennent à la messe de temps en temps. Et qui viennent notamment pour les quatre grands rendez-vous annuels. Noël, Pâques, Toussaint, culte des morts très important. C'est souvent la messe la plus pratiquée, la plus fréquentée au XIXe siècle. Il y a plus de monde, plus qu'à Noël et à Pâques. Noël, Pâques, Toussaint, 15 août. C'est ça, les rameaux aussi, mais 15 août, c'est vraiment... Ça correspond à des dates importantes du calendrier agricole, de la vie rurale, très important aussi, dans ce pays à la fois industrialisé et rural qui est resté la France pendant très longtemps. Bref, il y a mille raisons d'y aller de temps en temps. Voilà. Et puis, les conformistes saisonniers de type 2, ils y vont jamais à la messe, mais ils y vont pour consacrer les grandes saisons de l'existence. Ils baptisent leurs enfants, ils font la communion, ils se marient et ils ont des obsèques religieuses. Voilà. Ils vont à l'église quand la cloche sonne pour eux. Et c'est tout. Mais c'est déjà beaucoup en ce sens que ce que montrait Lebras en 1931, et ce qui était encore vrai en 1965, au moment où le chanoine Boulard avait repris le collier, c'est que seuls 3% des Français d'ascendance catholique, et l'ascendance catholique c'était 94% des Français, seuls 3% des Français d'ascendance catholique n'avaient plus aucun contact avec l'Église, étaient sortis du troisième cercle. 3%. 3% en 1965, c'est-à-dire plus d'un siècle et demi après la Révolution française, c'était pas mal. C'était quand même pas mal. On a souvent eu tendance à mépriser ce clergé français du XIXe siècle qui n'aurait eu pas suffisamment de conscience missionnaire, etc. Il a fait le job, quoi, hein. C'est-à-dire qu'en 1960, début des années 60, il faut voir ce qu'était la France de 1801. Au fond, personne n'était sorti du troisième cercle. Quasiment personne. Même parmi les francs-maçons, les laïcs, les communistes, le taux de sortie, il était limité en réalité. Alors, ça, c'était, je dirais, les contrastes en termes de pratique. Et la photographie que je vous donne, c'est la photographie du début des années 60, d'une certaine façon, encore. Contraste, donc, dans les niveaux de motivation. Deuxième type de contraste, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, je n'y attarde pas, c'est les contrastes géographiques, et c'est très important. C'est-à-dire que la France, c'est le pays de tous les contrastes géographiques, de ce point de vue-là. Et il n'y a pas de raison, d'ailleurs, que chacune de ces zones, de ces secteurs, et évoluer de la même manière, au même rythme et toujours dans la même direction. C'est nous qui faisons bien souvent comme si, dans nos scénarios reconstitués. Mais en pratique, quand on y regarde de près, les situations sont très variables. Vous avez une France chrétienne, une France de pratique, ce que Boulard appelait une France de pratique majoritaire, c'est-à-dire où il y a plus de 50% des adultes qui vont à la messe tous les dimanches. Mais même, c'est une zone pas homogène, parce que quand on dit plus de 50%, ça c'est pas la même chose d'avoir 51 ou 94%. Et pourtant, ils sont de la même couleur dans la carte. Mais vous aviez donc une France chrétienne à plus de 50% de pratiquants, avec une géographie, j'aurais dû vous amener la carte, que vous connaissez peut-être, en gros, elle est très curieuse, parce qu'elle est un peu périphérique. C'est la France du Nord, des campagnes, des Flandres, pas des villes ouvrières et industrielles. C'est la France de l'Est, alsacienne, lorraine, vosgienne, c'est une partie de la France des Alpes, c'est tout le rebord sud-est du Massif central, en gros, de Saint-Étienne à Albi, Castres, c'est le Pays basque, c'est la France de l'Ouest, c'est le bloc de la France de l'Ouest, et encore pas partout dans le détail, pas sur les côtes, etc. Bon, quand on zoome sur les zones, on s'aperçoit de tas de contrastes, mais en gros, il y a cette espèce de distribution périphérique du catholicisme français, c'est très mystérieux, d'ailleurs, d'où vient la carte? On pourra en parler si vous voulez, mais c'est là aussi, il y a des bibliothèques entières, savoir de quand date la carte et elle est née de quoi. Mais c'est une des cartes bien connues, qui est une des cartes les plus explicatives de l'histoire de France jusque dans les années 1970-1980, parce que toutes les autres cartes la recoupent d'une certaine façon. Encore aujourd'hui, certains d'entre vous sont peut-être des lecteurs d'Emmanuel Todd ou de Jérôme Fourquet, qui sont les deux derniers observateurs à connaître la carte et à savoir que qu'on ne peut rien comprendre, en fait, à la cartographie française jusque dans les années 1980-1990, si on n'a pas cette carte en tête. C'est la carte la plus fondamentale, c'est la carte génératrice. Elle a été générée, pour comprendre d'où elle vient, mais elle a été, au fond, beaucoup plus génératrice en avant que générée en arrière. C'est souvent le cas des grandes ruptures, c'est-à-dire qu'il y a un événement majeur qui se produit, on essaie de savoir d'où ça vient, on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord, ce qui est sûr, c'est que ça a eu des conséquences majeures. Il y a parfois des contrastes énormes en histoire entre des causalités minces et des conséquences majeures. Des événements structurants, comme la Révolution française. On peut toujours disserter, à perte de vue, ça vient d'où la Révolution française, ça date de quand, ça s'est passé par où. Oui, mais il restera, in fine, un écart inexplicable entre les causes et les conséquences. Et je pense que c'est la même chose pour notre affaire des années 60. Oui, on peut toujours dire ça vient de ci, ça vient de là, et c'est la combinaison de ceci, cela. Oui, mais c'est surtout des événements créateurs. C'est-à-dire que ça casse un monde et ça en engendre un autre. Il y a une dynamique propre, spécifique, de sorte que, quand bien même on a énoncé toutes les causes possibles, on n'épuise pas le problème. Ça reste un petit peu énigmatique. Donc, contrat géographique, ça c'est très important. Ces contrats géographiques, ils étaient très concrètement... D'abord, le clergé les connaissait très bien, et pas seulement le clergé, à l'échelle locale. On savait très bien qu'en allant dans tel village, tel truc, on changeait de monde, à certains égards, sur le plan religieux. Simplement, la nouveauté de la carte, quand on l'a découverte en 1947, c'est que pour la première fois, on l'a vue dans sa totalité. Autrement dit, ce qui jusqu'à présent était des problèmes locaux mis bout à bout est devenu un problème global. On s'est dit, mais d'où vient cette foutue carte ? Alors, cette carte, je vous la fais très courte, mais elle est née dans sa totalité de la Révolution française. Elle est née de la Révolution française, à ce moment-là. Mais une fois qu'on a dit ça, la carte est née... en 1790-1791, au moment de la crise suscitée par la constitution civile du clergé, c'est la grande hypothèse, la question devient, oui, mais alors d'où vient la carte de 1790-1791? Et là, vous êtes ramené sous l'Ancien Régime, vous êtes obligé de remonter le fil de votre affaire, comme vous pouvez, avec la documentation disponible, localement. C'est un vaste problème, passionnant, mais c'est un vaste problème que de savoir d'où vient la carte. En tout cas, les contrats géographiques étaient très forts, et ils expliquent pas mal de choses de la situation du catholicisme français des années 50 ou début des années 60.
Tendances actuelles du catholicisme français, regard historique. Vous venez de suivre la première partie de l'intervention de Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire des religions. Intervention enregistrée le samedi 24 septembre 2022 à la maison diocésaine de Bayonne lors de la journée de rentrée de l'antenne de théologie des pays de l'Adour, l'ATPA. La semaine prochaine, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie de l'intervention de Guillaume Cuchet.